France Culture.
Bonjour François Calam.
Bonjour Caroline Brouet.
On vous retrouve pour le deuxième épisode de Ces Avoix Nues. On vous a laissé avec une thèse d'ethnologie en 1983 à l'École des hautes études en sciences sociales sur le thème de l'étude de la charpente rurale en France. On vous retrouve en 1986 au ministère de la Culture, où vous devenez conseiller en DRAC, comme la Direction régionale des affaires culturelles, si je ne m'abuse, conseiller en DRAC pour l'ethnologie, Picardie et Normandie. Vous y êtes resté 37 ans. Alors on va peut-être pas faire 37 ans en un seul épisode, mais quoique nous allons passer en revue un certain nombre d'actions, de missions que vous avez menées au sein de cette DRAC. Racontez-nous comment vous vous êtes retrouvé au ministère de la Culture. Je crois que c'est par un professeur génial, le professeur Isaac Kiva.
Isaac Kiva a une très forte personnalité qui a été le bras droit de Claude Lévi-Strauss au laboratoire d'anthropologie sociale. Son rôle a été déterminant dans l'élaboration du concept de patrimoine ethnologique en France. Considérer les peuples comme porteurs de cultures vivantes, de pratiques, de modes de représentation, tout ça méritait une attention qui jusqu'à présent n'avait jamais été manifestée par l'institution.
Donc vous travaillez d'abord en Picardie, donc sur trois départements, l'Aisne, l'Oise et la Somme. Et vous étiez donc chargé, François Calam, si je vous suis bien, de trouver ces cultures patrimoniales ancrées dans le territoire.
Oui, je n'étais pas Picard moi-même. Et j'ai, au gré de ces longues années passées sur le terrain, eu l'occasion de découvrir des facettes complètement ignoré, non seulement de moi-même bien sûr, mais de la plupart de nos compatriotes, et découvrir une région cachée. Toutes les régions savent se cacher et savent se donner à voir quand elles en ont envie. Mais les Picards ne se montrent pas. Les Picards, comme on dit en Picard, les Picards se muchent. Ça veut dire se cachent. En Picardie, les enfants jouent à muche-muche. Ça veut dire jouer à cache-cache. En Picardie, le général de Gaulle disait, il avait beaucoup pratiqué cette région pour différentes raisons. Pendant les deux guerres mondiales, et il appelait Picardie Mortel Boulevard. Et donc, effectivement, les Picards pendant toutes les guerres, ont eu l'occasion de voir passer tous les envahisseurs possibles et imaginables. Et ils en ont gardé peut-être certains stigmates, et notamment une habitude qui consistait à se mettre à l'abri, non pas par lâcheté, mais par souci de survivance. Et notamment, ça se marque encore dans certains éléments de l'architecture, il y a tout un secteur du plateau Picard, dans la Somme et dans l'Oise, où les villageois pouvaient se réfugier à l'intérieur de réseaux de souterrains, qu'on appelle des muches précisément, ou des creutes, ça dépend des régions, qui étaient des galeries souterraines où les villages étaient reconstitués à l'identique de leur version aérienne, si on peut dire, et au moment où arrivaient les troupes ennemies ou les menaces guerrières, eh bien, se réfugiaient à l'intérieur de ces galeries. Ça s'est vérifié pendant des siècles et ça s'est encore vérifié lors des derniers bombardements que malheureusement on a connus. Donc le Picard est quelqu'un qui a des trésors d'inventivité, de créativité, de résilience, comme on dit aujourd'hui, mais qui apprend soigneusement à les cacher. Et ça se manifeste sous toutes sortes d'aspects. Bien sûr, le Picard ne cherche pas particulièrement à paraître, à briller, à parler en public. Il est plutôt un taiseux. Et il possède des trésors de savoir-faire, d'ingéniosité, qu'il a pu développer tout au long des siècles et qui sont en général pratiqués parallèlement aux activités agricoles. La Picardie est une grande région agricole avec des rendements céréaliers très conséquents. C'est une région riche, mais qui a développé depuis l'époque gallo-romaine la présence d'une main-d'œuvre rurale nombreuse, qui était nécessitée par les travaux agraires, mais qu'il fallait occuper une partie de l'année, parce que l'agriculture ne se pratique pas de manière constante les 12 mois de l'année. Et en particulier les mois d'hiver, les populations rurales qui étaient pauvres devaient développer des activités artisanales, des activités de, comme les Anglais les appellent, de cottage industry, l'industrie qu'on pratique à la maison, dans les villages, une industrie rurale. On peut citer pêle-mêle des activités comme la verrerie, la production de céramique, de terre cuite, par exemple dans le pays de Bray, des productions textiles, ça c'est vraiment une constante que l'on a sur les trois départements, et là encore ça empiète bien sûr sur l'Artois, le Cambrésis, les régions voisines. Des activités industrielles qui ont pu se diversifier jusqu'à l'aéronautique, l'aérospatiale s'est développée là encore à partir de petites unités de production aéronautique dans la Somme, à Albert par exemple. Mais bon, personnellement, j'ai pu travailler sur certains de ces secteurs qui m'ont particulièrement inspiré, et notamment le secteur du textile, auquel j'ai consacré beaucoup d'activités pendant plusieurs années.
Alors, par exemple, puisque votre travail de conseiller pour l'ethnologie, François Calame, consistait à mettre en valeur le patrimoine, on l'a compris, mais à monter aussi des projets, des programmes de recherche, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. Vous avez monté notamment un projet qui avait pour sujet la route du textile. Une route qui passait, alors là je parle sous votre contrôle, mais qui passait par la terre d'origine de Matisse, par exemple.
Oui, on s'est aperçu que le textile, forcément, a concerné les gens les plus inattendus et une partie très importante de la population. Il s'est trouvé que le grand peintre Henri Matisse est originaire de la région de Saint-Quentin, plus précisément d'un petit village qui s'appelle Bohain.
Bohain en Vermandois.
Bohain en Vermandois, Bohain à la frontière, des régions qui ont vu passer les casques à pointe et les obus pendant des années, mais dans laquelle continuait de prospérer une créativité de la part d'ouvriers et d'ouvrières à domicile qui n'ont pas été à l'école, qui se sont formés de manière très souvent autodidacte, par transmission familiale, et qui ont maintenu un savoir qui a absolument imprégné l'œuvre de Matisse. L'œuvre de Matisse est profondément textile. Il a été baigné durant son enfance par le spectacle quotidien dans toutes les rues qu'il croisait, qu'il fréquentait, de ces métiers à tisser à bras qui étaient abrités dans des maisons individuelles, parfois même dans des caves. On tissait notamment le lin en sous-sol parce qu'il faut de l'humidité pour tisser du lin, mais on tissait également ce qu'on appelait de la haute fantaisie, c'est-à-dire les textiles les plus élaborés qui ont ensuite été mis au point avec les mécaniques jacquard. Et il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui la haute couture, la haute fantaisie, comme on disait au XIXe siècle, permettait de satisfaire les demandes les plus exigeantes de toute la clientèle aristocratique du monde entier. Le tsar de Russie faisait tisser une partie de ses ornements dans le Vermandois. La reine d'Angleterre faisait tisser également. Et c'était des paysans ouvriers qui réalisaient à domicile ces ouvrages. Alors bien sûr, le paysan ouvrier ne connaissait pas la reine d'Angleterre, on s'en doute, mais par l'intermédiaire et par le biais d'une sous-traitance dont on peut imaginer la complexité, c'est au final des ouvriers paysans qui réalisaient sur les métiers à bras, actionnés à la main, en lançant la navette, sur des métiers qu'on appelait les bistanclaques. Bistanclaques, c'est le mouvement que fait la navette lancée à la main pour réaliser ces étoffes, et notamment avec la mécanique jacquard.
Matisse l'a lui-même écrit, je le cite, hein, « La maison d'un paysan se composait d'une grande pièce et d'un lit, la table au milieu et dans un coin un métier à tisser, un métier jacquard. Dans tous les villages des environs, il y avait des tisseurs. »
Et cet univers était tellement prégnant. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est de penser que ces ouvriers paysans gagnaient plus à démarrer les betteraves à la saison où il fallait faire les travaux agricoles qu'à tisser pour la haute fantaisie. Ce sont des gens qui, en 1936, ont fait grève pour qu'on puisse reconnaître le temps de montage des articles comme étant digne d'être payé. C'est-à-dire que les maisons qui commanditaient ces ouvrages, par exemple, une des plus célèbres était la maison Rodier, dont on connaît encore aujourd'hui le nom de Rodier. Rodier était un donneur d'ordre dont les bureaux prestigieux étaient à Paris, rue des Jeuneurs. La maison technique se trouvait à Bohain, où elle occupait trois rues parallèles. C'était tout un quartier de ce bourg qui était occupé par la maison Rodier, qui ensuite attribuait aux ouvriers et aux ouvrières à domicile la réalisation de métrages très courts, d'étoffes très précieuses qui étaient réalisées dans les maisons.
Et vous, François Calame, cette histoire et d'autres, vous les avez exhumées ? Sortie de l'ombre, sortie du silence, sortie de la muche, d'une certaine façon, vous évoquez Rodier, la maison Rodier, et une autre maison qui a eu un rôle très important dans cette terre, en particulier dans le Bohénois, près de Bohain, c'est Chanel. Chanel avait ouvert, enfin Gabriel Chanel, dite Coco, avait ouvert à partir de 1928 une usine, avait fait construire une usine, où elle faisait tisser ses textiles, notamment ses lainages, à Maretz. Et cette usine a fermé, a disparu, quand elle-même a arrêté de produire ces parties hors parfum à partir de 1940. Mais de 1928 à 1940, ça fait des années quand même, de tissage de textiles. Vous avez sorti cette histoire de l'ombre puisque vous avez monté une exposition en 1993 qui s'intitulait « Tisserand de légende » avec le service du patrimoine ethnologique de la Direction régionale des affaires culturelles de Picardie et l'association de sauvegarde du patrimoine industriel du Vermandois. Tout ça est très important. Mais j'aimerais que vous nous racontiez un peu cette histoire et tout ce que vous avez découvert de ces tissages et puis de ce qu'il en reste d'humain, enfin de ce qu'il en est resté d'humain, parce qu'il reste une trace dont ils ne parlent pas, les Picards, mais enfin qui est très très forte dans la région.
Et ça, c'est la force du travail de terrain qui nous pousse à questionner, à demander toujours davantage. Mais la réalité, en fait, est que lorsque vous voulez faire apparaître une réalité, votre interlocuteur, votre informateur, comme on dit en ethnologie, n'est pas nécessairement disposé à vous la livrer. Il faut mériter la connaissance. Quand vous arrivez dans un village picard et que vous dites « C'est bien ici que Chanel a travaillé », personne ne vous répondra « Ah oui, Chanel a ici travaillé ». Ça n'est marqué nulle part, il n'y a pas de plaques commémoratives qui sont posées. C'est la même chose pour Matisse, c'est la même chose pour un certain nombre de personnalités de ces régions, et c'est l'enquête de terrain et le fait de frayer avec la population longtemps, c'est le travail, c'est pas un travail, on fait pas de l'ethnologie de bord de route. Si on veut faire un travail approfondi, il faut connaître les gens, s'en faire apprécier. Il faut déployer des stratégies sans pour autant utiliser de méthodes hypocrites. On ne joue pas un jeu et en même temps on pressent ce qu'on veut espérer trouver. Et à force donc de pratiquer ce terrain chez les anciens tisserands, qui étaient des gens dont très peu avaient été à l'école, mais qui avaient une passion textile qui m'a vraiment frappé. Le textile est un métier qui passionne. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est totalement silencieux, totalement taiseux. Il vous dira à peine bonjour. Les Picards sont pas particulièrement connus pour leur cordialité facile. Mais quand vous leur parlez textile, c'est la passion qui les anime. Et ça, c'est quelque chose qui se transmet. Et au fur et à mesure de ces enquêtes, un jour, j'ai découvert que, en passant dans une conversation, mais sans y toucher, oui, ça, c'est un métier à tisser qui a appartenu à Chanel. Comment ? Et petit à petit, j'ai pu remonter cette filière. L'usine avait disparu, donc elle a été abandonnée par Gabriel Chanel. Donc, en 1940, elle a abandonné toutes ses activités liées à la couture. Elle a laissé tomber complètement tous ses ouvriers. Elle avait ses préoccupations et sa manière de gérer sa maison. Elle a détruit entièrement ses archives. Donc ça veut dire aussi toutes les archives liées à, aux personnes qui travaillaient pour elle. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est une mémoire solidaire. Les donneurs d'ordre sont solidaires des gens qui exécutent et les exécutants ont eux-mêmes une part très importante dans la création, dans la créativité. Parce que quand on crée ces étoffes de haute fantaisie, bien entendu, au final, c'est le créateur, c'est Karl Lagerfeld, c'est Gabriel Chanel qui signe et qui, bien entendu, laissera la marque, la griffe prestigieuse de tel et tel modèle. Mais le tâtonnement, le va-et-vient qui se fait entre l'idée, l'esquisse, l'intuition géniale ou pas du créateur et la réalisation finale, c'est l'objet d'un va-et-vient et d'un échange dont l'exécutant, en l'occurrence le tisseur, puisque je parle d'hommes qui sont au métier à tisser, bien sûr c'est une communauté textile, hommes et femmes, mais le tisseur lui-même n'emportera jamais le prestige de cette création. Et tout ce principe-là d'une crypto-culture technique, de gens passionnés, eh bien, c'est la marque même de l'industrie picarde. C'est le principe de la sous-traitance dans laquelle le sous-traitant sera toujours quelqu'un d'inconnu. C'était le jeu de la sous-traitance. Le textile en Picardie, c'est aussi des innovations extraordinaires. C'est des traditions, mais c'est aussi des innovations. Il existe toujours encore, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais j'imagine, une entreprise au nom merveilleux de Tripette et Renault qui produisait de la soierie pour produire des gaz à bluter, utilisés en meunerie, donc pour tamiser la farine dans l'industrie céréalière. Donc, Picardie, région céréalière, très de grosse production céréalière. Donc il y avait, pour la meunerie, depuis le 19e siècle, production de toiles de soie au duitage extrêmement serré, qui donc, permettait donc de tamiser ces farines. On imagine que la crise de la meunerie, l'évolution des techniques, devait fatalement amener à la disparition de ces chaînes opératoires. Mais le miracle a opéré et cette entreprise a réussi la culbute de se transformer pour produire, en utilisant son savoir-faire qu'ils étaient les seuls à posséder, parce que tisser une soierie extrêmement fine avec un duitage extrêmement serré, tout le monde ne peut pas le faire. Et cette entreprise s'est reconvertie dans la fabrication de tamis pour la sérigraphie. C'est-à-dire qu'il se trouvait que les critères étaient les mêmes. Ce n'était plus de la soie, bien entendu, mais la technicité et les exigences de qualité devenaient un atout, conservaient l'atout d'un savoir-faire ancestral, qui fait qu'aujourd'hui, sauf si je dis une énormité, mais je pense que cette unité de production n'a fait que prospérer, parce que la sérigraphie est évidemment un élément essentiel de la société actuelle industrielle. Et donc on voit vraiment comment la permanence des savoir-faire joue un rôle important.
Vous êtes beaucoup impliqué dans cette histoire humaine, on l'entend, histoire sociale, histoire économique aussi de la région. Et quand je dis vous êtes beaucoup impliqué, François Calam, c'est que, par exemple, pour revenir à cette exposition sur les tisserands de légende et en particulier l'histoire de l'usine Chanel à Marès, pour cette exposition, par exemple, vous avez monté toute une opération de collecte de mémoire. Donc là, vraiment, il a fallu aller à la rencontre de ces familles, de ces personnes qui avaient des tisseurs, vous le dites, souvent hommes, dans les familles, dans l'histoire, pour que les histoires elles-mêmes particulières remontent. Et vous avez même fait rééditer un tissu des années 30, le tissu serpillière, c'est ça ? Parce qu'il y avait eu... Il y a eu quand même des réalisations Chanel à l'usine Marest de grandes célébrités. Hein. Par exemple, les tweeds en laine, pieds de poule, prince de Galles avaient été faits dans cette usine. Bon. Vous, c'est le tissu serpillière qui vous avait intéressé. C'était quoi ce tissu ?
Alors, c'était un tweed. Chanel, qui a eu des sources d'inspiration très proche de la Grande-Bretagne, à certains moments de sa vie, avait été fasciné par des tweeds extrêmement raides, qui étaient l'apanage de la production britannique. Elle fréquentait à l'époque le duc de Westminster. Elle était revenue avec cette mode et elle avait innové en montrant que ces tweeds pouvaient habiller la femme et que n'était pas seulement l'apanage du costume des hommes. Donc elle a transféré ce savoir-faire du tissage des laines cardées dans une région qui n'en avait pas vraiment l'habitude. Le nord de la France était connu à l'époque pour un travail d'une grande perfection de la laine peignée. Et la laine peignée, donc, ce sont des fibres longues, et la laine cardée, au contraire, ce sont des fibres courtes qui étaient dévalorisées. Et la fibre courte de la laine cardée aboutit à faire des bouloches, à faire ces boules que l'on voit dans le tweed, dans le gros tweed. Et Chanel, extrêmement inventive, trouvait, elle avait découvert le charme, elle a introduit elle-même dans la mode le charme de ces techniques, et elle a convaincu donc les ouvriers du Beauharnais, du Vermandois, de réaliser ces tissus en laine cardée. Donc j'ai pu retrouver sur le terrain, et là c'était vraiment le terrain qui m'a conduit, j'ai eu la chance de découvrir grâce à des anciens qui avaient sauvé ces archives qui étaient brûlées, qui avaient disparu. Il s'est trouvé que certains, génialement, avaient trouvé dans des décharges, il y a eu des cahiers qui ont été sauvés, que j'ai retrouvés dans des greniers, que j'ai pu, avec l'aide bien entendu des anciens ouvriers du textile, explorer, analyser. Leurs explications étaient évidemment très précieuses. Moi, je n'étais pas un textilien, mais j'ai pu retrouver ces albums, un nombre relativement restreint, les sources étaient restreintes, mais et ces albums, qui étaient les productions de Chanel de la fin des années 30, j'ai pu ensuite aller les présenter à la maison Chanel. Ils ont été examinés par Karl Lagerfeld, et j'ai rencontré également une dame très âgée, Micheline Madou, qui a été elle-même une amie intime de Coco Chanel, et je lui avais montré également ces échantillons, et elle se souvenait, et elle a tout à coup flashé sur un échantillon qui était particulièrement beau, il faut bien le dire, et elle me dit « Ah ça, mademoiselle appelait ça de la serpillière ». Donc quand j'ai entendu cette phrase, bon, je l'ai conservée, je n'ai pas rencontré Karl Lagerfeld, mais j'ai rencontré ses collaborateurs. J'ai prêté ses albums à la maison Chanel et on m'avait dit « Tu feras gaffe parce que Karl Lagerfeld Il a toujours une paire de ciseaux dans sa poche et quand quelque chose lui plaît, il prélève. Donc, on avait pris les précautions d'usage. Je n'étais pas présent à cette séance, mais les collaborateurs avaient bien fait attention que ces spécimens devaient évidemment être conservés. Bon, bref, Lagerfeld a flashé sur la serpillière. Il a connu l'histoire. Coco appelait ça de la serpillière. Le truc était superbe. C'était un croisé 2 et 2 noir et blanc, très très chanélien. Et en 94, donc la maison Chanel a décidé, à partir des échantillons que je leur avais fournis, de recréer pour la collection de prêt-à-porter et de haute couture un modèle qui était réalisé avec ce tweed. Et j'ai pu faire réaliser par les ouvriers de Bohain. Il y existait encore une usine, un atelier de tissage à bras avec des mécaniques jacquard de métier à bras. J'ai pu faire réaliser un métrage qui a permis de servir de prototype à partir duquel la maison Chanel a réalisé ce modèle. Et j'ai pu assister au défilé, au carrousel du Louvre, où on voyait ces modèles de serpillière. Et donc c'était la mémoire ouvrière qui avait permis de conserver cette trace et d'alimenter quelque part à un moment donné la création ou la recréation, puisqu'il y a eu... Karl Lagerfeld avait décidé de sortir 2 modèles, il avait sorti un... C'était un tailleur, évidemment, le tailleur. Et donc il avait sorti un modèle qui était une reconstitution pure et simple d'un modèle significatif des années 1937. Et puis, il en avait fait aussi, bien sûr, une version contemporaine, une création, mais qui utilisait cette étoffe.
Vous voyez, François Calam, en commençant cet épisode, je disais, on ne va peut-être pas retracer les 37 ans que vous avez passés au ministère de la Culture. Je ne pensais pas si bien dire, puisque nous sommes restés sur le textile, finalement, alors que nous aurions aussi pu parler du travail que vous avez fait sur le matériau de construction, comme la terre crue. J'y pensais, matériaux de construction, parce qu'en parlant du textile, je me disais, mais on est quand même loin de la construction, du bâti, de la maison et du bois. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que dans les mêmes années, vous avez créé une association en 1992, Charpentiers sans frontières, dont nous allons parler dans l'épisode suivant, l'épisode 3, l'Europe du bois. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec François Calam, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.